Alors, bonjour, bon matin et bonsoir. Bienvenue à cette émission Yoga Partout Web Radio Internationale. Aujourd'hui, nous avons une invitée tout à fait unique, tout à fait particulière. Ça me fait un grand plaisir de vous présenter Régine Canas. Régine est yogacharya, donc maître en yoga, enseignante et formatrice en Vini Yoga. Elle enseigne depuis 2002, accréditée par la Fédération francophone de yoga et l'étude et la transmission du yoga, le ETY. Elle se spécialise en offrant des services en rencontre privée, des conférences, des ateliers en entreprise, aux particuliers, ainsi que des cours de groupe. En fait, je pourrais continuer quand même pendant une bonne minute à vous présenter Régine, puisque cela fait quand même de nombreuses années qu'elle enseigne. Et au lieu de faire ça, eh bien, je vais lui demander qu'elle se présente et qu'elle continue cette présentation. Bonjour, Régine.
Oui, bonjour, Daniel.
Et voilà. Et ça me fait plaisir à toutes les fois que j'entends votre voix, ça me donne des frissons tellement là, je suis ému.
Bon, vous êtes bien gentil de m'accueillir, je vous remercie.
Alors, pour les personnes, Régine, qui ne vous connaissent pas, j'ai fait une brève introduction, vous avez entendu. S'il vous plaît, peut-être vous présenter comment vous en êtes venue au yoga.
Bon, alors, si je veux être brève quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de chemins qui m'ont mené au yoga, mais les grandes lignes sont probablement mon expérience de ma première profession, qui est danseuse professionnelle en ballet classique. Alors, suite à cette carrière-là, malheureusement que j'ai dû terminer prématurément parce que j'étais blessée beaucoup au niveau physique, parce que c'est assez excessif comme entraînement. Je me suis tournée vers le yoga pour m'aider justement à retrouver une espèce de paix avec mon corps, retrouver le plaisir de bouger. Donc le yoga m'a ouvert les portes avec toute sa philosophie aussi, le souffle. Ce sont des aspects que je ne retrouvais pas en ballet classique, bien évidemment. Quoique finalement le ballet classique a été une grande passion pour moi, c'est sûr. Ça se veut spirituel jusqu'à un certain sens, je crois aussi avec la musique classique. Mais le yoga, donc, m'a accueilli et j'ai pu me ressourcer, je vous dirais, à travers les 8 membres du yoga, pas seulement les asanas, mais après j'ai compris que pranayama, les yamas, niyamas, la concentration, évidemment, je suis arrivée à un moment donné à toucher à la méditation. Donc, ça a été une découverte qui m'a sauvée, je vous dirais, parce que vous savez, quand on est passionné, qu'on n'arrive plus à faire ce qui nous passionnait, on a l'impression qu'on perd un peu notre identité. Donc, je me suis retrouvée dans mon essence, c'est ça. Je m'étais perdue. Je m'étais identifiée comme danseuse professionnelle. En fait, je m'étais beaucoup limitée. Et le yoga m'a appris à voir certains aspects de moi que je ne connaissais pas non plus. Donc, tout le côté spirituel que j'ai découvert, en fait, graduellement, je me suis ouverte de plus en plus à travers les côtés plus sombres de moi aussi, je vous dirais. Donc, je me suis accueillie et j'ai pu guérir des choses aussi à travers cette démarche du yoga. Voilà. C'est les grands plaisirs.
Et voilà. On parle de yoga et on parle aussi d'aider les autres. On parle souvent de votre travail, de votre mission à titre d'enseignante de yoga dans un sens très large, parce que pour vous, le yoga, ce ne sont pas seulement des postures.
Non, bien évidemment que non. Mais vous savez, j'ai commencé comme tout le monde avec des postures. c'est avec le temps que j'ai découvert l'impact que le yoga pouvait avoir chez les individus. J'ai vu moi-même de quelle façon je me suis découverte. Et puis, ça m'a touchée aussi à travers mon enseignement de voir comment les gens pouvaient se découvrir à leur tour, comment ça pouvait toucher des gens de toutes conditions physiques. Et je me suis D'accord. intéressée de plus en plus aux gens qui étaient justement avec de moins grandes conditions physiques parce que je venais d'un monde de grande compétition, hein. Et je voulais comme tourner la page sur cet aspect-là d'être compétitif. Quand j'ai croisé des gens qui étaient démunis, en fait, physiquement, ça m'a beaucoup touchée de voir dans leurs yeux là, comme ils avaient envie de faire du yoga, mais bon, il n'y avait pas vraiment de possibilités pour eux. Et puis, j'ai initié tranquillement le yoga sur chaise au début. Mais graduellement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas beaucoup bouger en chaise roulante. Alors, c'est encore plus intriguant, hein, d'enseigner à des gens qui ne peuvent pratiquement pas bouger. Ça m'avait vraiment motivée à comment je pourrais faire pour les aider à découvrir le yoga. Donc, des micro-mouvements, c'est sûr que la respiration vient jouer un rôle énorme. Et c'est bien tant mieux. Et ça les a fait découvrir un monde intérieur insoupçonné. Donc, ils ont découvert une certaine force intérieure qui les aide énormément à traverser ces épreuves-là. On parle de gens qui sont quand même en fait en fauteuil roulant limités. Donc.
Ouais. Et voilà. Mmh. Et donc, lorsque vous mentionnez paix avec le corps, ça passe oui. Presque forcément par l'attitude intérieure. Qu'est-ce qui vient en premier pour atteindre cette paix dans le corps? Est-ce que c'est ben, de, oui. Comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez pour justement attirer autant de monde qui prennent vos formations, vos cours? Vous êtes oui. très en demande. Dites-nous là. Qu'est-ce qui fait
j'essaie de transmettre le yoga dans sa plus pure tradition. Hein. J'essaie de ne pas être influencée par une certaine mode. Si on regarde les yoga sutras de Patanjali, d'ailleurs mon enseignement repose uniquement là-dessus, on se rend compte que Asana est là, mais on n'en parle pas tant, en fait. On parle énormément plus du souffle, de l'agitation du mental. On parle des kleshas, des souffrances, abhinivesha, les peurs. On parle de plein de choses. Alors, le corps devient, en fait, on habite dans ce corps, mais on n'est pas ce corps. Que vous voyez ce que je veux dire? Mettre tellement d'importance dans ce corps, à un moment donné, c'est un véhicule. Hein? Il devient une éponge selon ce que l'on vit. Le stress peut être, imprimé dans nos tissus. Hein, on en parle beaucoup de ça, que le stress, les tensions s'impriment dans les tissus conjonctifs, hein, dans les thérapies qui sont là-dessus. Mais au-delà de ça, le corps reste un habitant. Donc, j'ai un plaisir, moi, à me détacher du corps et plutôt aller travailler avec le mental. L'agitation du mental, le conscient, le subconscient. Bon, on va chercher ce travail-là par le biais du souffle. C'est une belle façon. Donc, je pense que les gens qui aiment faire le Vini Yoga, comme j'ai appris à l'enseigner, comprennent ça, que le corps, c'est une chose, mais ce n'est pas le but des rencontres de yoga. C'est pas vrai. On s'en sert parce que c'est un véhicule, mais au-delà de ce qu'une sensation intérieure qu'on va aller chercher, un espace intérieur qu'on ne sent pas dans le quotidien, hein, dans notre bois de la journée. Donc, quand on se retrouve à faire des séances de yoga, on arrive à toucher à ces espaces intérieurs et on arrive à sentir le souffle, on arrive à faire pratyahara, en fait, c'est-à-dire le retrait des sens vers soi. On a beaucoup de choses à découvrir à travers ça. Donc, je dis souvent aux élèves, c'est souvent dans les séances, dans les enchaînements simples, très simple qu'on arrive à découvrir de grandes choses à l'intérieur de soi. Et on se découvre aussi. C'est pas avec des enchaînements qui sont spectaculaires, nécessairement, qu'on va y arriver. C'est de la simplicité. Vous voyez un peu où je vais avec ça. Mais c'est dans la simplicité et dans la patience. Plus on est patient et persévérant, d'ailleurs, les yogas en parlent de ça, patience et persévérance, pratique ininterrompue, parce que plus je répète, plus je suis dans le moment présent, dans la pleine conscience de ce que je fais, plus je serai apte à découvrir ce qu'il va avoir. Parce que ça ne se fait pas d'un coup, là. Donc, persévérer et pas être focusé sur le fruit de votre travail, mais plutôt être dans l'action présente. Là, on découvre plein de choses. Alors, je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien faire du yoga. Et les formations de professeurs, si vous voyez ce que je leur offre comme pratique, c'est tellement simple. Des fois, ils trouvent ça étonnant. Donc, c'est dans la simplicité que j'enseigne. C'est par le chemin de la simplicité qu'on arrive à bien se découvrir aussi.
C'est tellement beau ce que vous dites. Moi, je vous écouterai pendant longtemps. Madame Canas, Régine Canas, je m'en voudrais de ne pas mentionner votre site web. Pour les personnes qui écoutent et qui voudraient justement découvrir votre site, vous avez un site qui est tout à fait complet, il est simple justement, hein? il rejoint votre façon de voir la vie et en même temps il est complet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais épeler le nom de votre site et si je me trompe, corrigez-moi, ça va?
C'est très bien.
Alors pour toutes les personnes qui veulent découvrir Régine Canas, le yoga, le Vini Yoga, vous allez à reginecanas.com. Donc, R-E-G, G comme go, I-N-E, C-A-N-N-A-S.com. Est-ce exact?
C'est très, très bien, oui.
Alors, il y a aussi sur Yoga Partout, vous avez votre espace sur Yoga Partout. Nous allons y revenir un peu plus tard durant cette entrevue. Donc, les gens savent, ils vont sur l'espace de Yoga Partout et ils utilisent l'engin de recherche. Et tout en un mot, Régine Canas, et vous allez trouver toutes les informations. C'est un peu comme un pont, donc voilà. Régine Canas, enseignante de Vini Yoga depuis plusieurs années.
Dire que j'ai commencé à enseigner avant d'être graduée, juste pour vous dire comme j'étais tombée dans la potion magique. Alors, j'ai fait une première formation qui durait 4 ans et j'ai commencé à enseigner après la première année. Pour vous dire comme la simplicité vous permet de toucher déjà à des gens. C'est ça que j'avais envie de souligner. Donc dans le fond, j'ai commencé à enseigner en 98.
D'accord.
D'accord. Oui, c'est ça.
Vous avez plusieurs cordes à votre arc, si je peux utiliser cette expression-là, dans le sens que vous voyez le yoga comme une méthode pour aider les autres. Vous n'hésitez pas à aller aussi chercher des fois des ressources ailleurs. Je pense ici à la naturopathie. Est-ce que vous voyez comme ça un complément entre la naturopathie et le yoga que vous enseignez?
Oui, vous savez, la naturopathie, il y a des piliers qui représentent la naturopathie, des piliers de santé qu'on appelle, dont l'activité physique, dont la gestion du stress, pour n'en nommer que deux. Et la gestion du stress, le yoga répond très bien à ça. N'est-ce pas? Et le corps, l'activité physique, c'est sûr que Asana répond très bien à ça. Donc, c'était comme naturel pour moi de faire une formation en naturopathie pour gérer justement tous les effets des agents exogènes, donc à l'extérieur de soi, c'est-à-dire la nutrition, les éléments stressants que notre environnement, nos relations aussi. Oui, la naturopathie va vraiment très bien avec le yoga. En fait, c'est comme ça fait partie de la même énergie, je vous dirais. Et j'ai joint d'ailleurs récemment une formation en Ayurveda parce que je trouvais que on était encore un peu plus profondément près de la personne avec les doshas, donc la constitution première de chaque personne. Donc oui, ça se touche très bien, naturopathie, yoga, Ayurveda, absolument.
Et voilà. Et voilà. Et donc, vous êtes en constante, si je pourrais utiliser le mot évolution, vous êtes en constante, en mouvement. Vous ne vous asseyez pas sur vos lauriers, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a tellement de connaissances que vous pouvez, que vous continuez à transmettre. Pour vous, le yoga et ce qu'on appelle l'éveil spirituel, ça veut dire quoi?
Oui, tu sais, c'est une bonne question, mais savez-vous, le yoga, au niveau de l'éveil spirituel, comme vous le nommez, je m'occupe, pour ne pas nommer tous les organismes pour lesquels je travaille, mais un, entre autres, qui est la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et je m'occupe de groupes de soutien, voyez-vous, pour eux, mais pas en cours de yoga. En groupe de soutien, je fais de la philosophie pour ces gens-là. Donc, je suis au tableau, j'écris de la philosophie, des concepts yogiques à des gens qui ont la maladie, en fait, de la sclérose en plaques, donc qui sont limités physiquement. Et malheureusement, ça se fait... C'est graduel, cette maladie-là, hein? Ça prend de l'ampleur avec les années. Donc, le yoga a sa place en dehors des classes de yoga. Donc, je m'occupe d'eux depuis un bon bout et ils sont très intéressés. Mais là, on s'adresse à des personnes qui ne font pas de yoga, qui ne savent pas ce que c'est le yoga, qui n'ont aucune idée. On peut parler de la philosophie du yoga, les aider, ça devient de la relation d'aide extraordinaire. J'ai même pas besoin de parler en sanskrit. Je peux très bien faire ça en français. C'est pas important parce que ça mène au but, c'est-à-dire l'acceptation de soi jusqu'à un certain moment. Bon, on comprend que l'acceptation de soi. Vous savez, on peut être d'accord, on peut accepter des choses, on peut accepter des situations sans nécessairement être d'accord. Mais le fait d'accepter les choses, c'est un lâcher prise. Donc, c'est un cadeau qu'on se fait. Parce que sinon, on est attaché constamment à quelque chose qui va nous faire souffrir. Donc, de lâcher, d'accepter certaines situations vont nous aider à avancer. C'est comme on lâche pour aller plus loin. Donc, la philosophie du yoga les aide à voir plus loin. Alors, je m'en sers énormément pour faire des groupes de soutien, pour faire de la relation d'aide. Dans mon cabinet privé, je fais des rencontres de relation d'aide avec les sutras de Patanjali. Et là, je m'adresse encore à des gens qui ne font pas de yoga du tout. Aucune idée. Ils ont entendu dire que, bon, ça pouvait être bien. Il paraît que je fais quelque chose qui est bien. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Puis bon, ils arrivent comme ça. Puis on parle un peu. Et puis, il y a deux, trois sutras qui me remontent. Là. Bon, je leur en parle, je leur partage. Ça les touche. Ce que j'entends tout le temps, c'est, mon Dieu, on dirait qu'ils ont été écrits pour moi. Ça tombe drôle en vient, on dirait que c'est fait exprès. Ben oui, c'est toujours comme ça. Et puis on en parle, on échange, et ils repartent avec leur sutra que je leur écris sur un petit bout de papier. Et puis bon, ça y est, ils ont un travail déjà à faire avec ça, ils vont méditer là-dessus, ils vont le relire. C'est comme ça qu'on fait. Donc le yoga, je vous le dis, c'est une mine d'or. Moi, ça m'a tellement aidé à traverser toutes sortes d'épreuves. Quand j'ai été blessée, à un moment donné, je ne pouvais même presque plus bouger là, pendant presque 3 mois. J'ai travaillé pranayama. Je ne pouvais rien faire d'autre. Mais voyez-vous comment est-ce que... Mais franchement, j'ai tellement appris mon pranayama. J'ai tellement été loin avec ça. Ben, j'ai été forcée, vous allez me dire. Ben, tant mieux. Mais j'avais quelque chose, en tout cas, qui m'a sauvée. Mon pranayama m'a super aidée dans ces périodes-là. Moi qui aime tant bouger physiquement, j'ai appris qu'il y avait autre chose que le corps, comme je l'ai dit au tout début de notre conversation. Donc, ne serait-ce que pranayama, ne serait-ce que travailler ma concentration pendant 3 mois, j'ai juste fait ça. Alors ça, ben c'est le vécu que j'ai, mais je peux le partager après avec les gens quand ils viennent me voir en relation d'aide. Hein. Je vais leur donner un premièrement, mais pas n'importe lequel, pas n'importe comment. C'est
Et
d'être à
voilà.
l'écoute de l'autre, de voir qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est quoi son besoin, c'est quoi son ouverture, c'est quoi son éducation aussi, hein? Ça juste. Puis lui donner. Le yoga est riche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le yoga, qu'on peut apporter aux personnes de différentes cultures, de différentes croyances. Il s'adapte parce que c'est pas religieux, le yoga, le vinyoga, c'est pas religieux. Le Yoga Sutra de Patanjali, c'est une philosophie, c'est pas une religion. Donc, ça s'adapte à tous. Alors, ouais. Ça va
Et
loin,
voilà.
hein?
Oui, ça va loin. Ça va loin. En fait, c'est la première fois que. Et bon, j'ai quand même rencontré quelques autres enseignants, professeurs de yoga dans le passé. Yoga Partout Web Radio diffuse dans 55 pays. C'est écouté par plusieurs centaines de personnes. Je donnerai pas de chiffres là. Ce que je veux en venir, Régine Canas de Vini Yoga, c'est que c'est une des rares fois où la discussion à propos de l'éveil spirituel, votre discours s'adresse vraiment aux autres. Pour vous, les autres, on dirait presque qu'ils sont plus importants que vous-même. Quand vous êtes comme ça dans un karma yoga, donc vous donnez de votre temps aux personnes qui vivent de la sclérose, qui vivent des situations très difficiles, il n'y a pas un peu d'égoïsme là-dedans? Vous sentez pas comme une intrus qui va aller chercher d'eux plus que qu'est-ce que vous leur donnez? Parce que oui, vous leur donnez. Mais en même temps, on apprend de ces personnes-là.
Ben oui.
Non?
Bon, vous dites quelque chose qui me touche énormément parce que, oui, au début, quand il y a eu un temps où j'ai enseigné pendant 4 ans pour eux, le yoga, en fauteuil roulant ou en chaise, sur chaise. Et au début, quand je leur donnais leurs cours, j'étais émue. J'étais
Ah
émue
ouais?
parce que, ben oui, moi qui venais leur apprendre quelque chose, hein, ben c'est eux qui m'apprenaient, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est eux qui m'apprenaient à être plus patient, à être plus posé, sans jugement, sans compétition, c'est bien certain, hein. Ils m'ont appris beaucoup, puis j'ai compris comment ils étaient fragiles, mais intéressés, pas beaucoup d'énergie. Mais intéressée. Ça m'a tellement touchée de voir ça, plus que certains groupes que j'ai de yoga réguliers, on va les appeler comme ça. Absolument. Pour moi, les plus grands yogis, c'est eux. C'est eux. C'est parce que quand on fait une séance de yoga avec des gens qui sont en fauteuil roulant, mais qui veulent vraiment faire ça, là, ça me touche. Il y a une atmosphère incroyable. Il y a un silence impeccable. Chacun fait son travail autonomement. Mais vraiment, il y a une symbiose extrême dans la classe. C'est vraiment extraordinaire de sentir ça. Alors oui, souvent, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Même pour les groupes de soutien, c'est eux qui m'apprennent toujours, toujours, toujours. En fait, oui, je remercie. En fait, c'est un retour, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut quand même reconnaître que ils apprécient aussi ce qu'ils reçoivent, heureusement. Donc, il y a un retour qui se fait continuellement. C'est comme une roue, hein? On dirait comme un chakra qui tourne bien. Je reçois d'eux, ils reçoivent de moi, mais moi, ça me nourrit énormément. Quand je donne ces cours ou ces entretiens, je me ressource. Je me ressource. Et je suis encore plus dans la gratitude de tout ce que j'ai, c'est sûr et certain. Oui. Donc, oui, il y a une vie spirituelle avec le yoga qu'on peut aller chercher. Je vous coupe, mais juste pour répondre dans le dernier aspect de votre question, oui, il y a un aspect spirituel et c'est dommage de voir que on le voit pas autant partout comme on pourrait le voir dans certaines classes de yoga. Mais je pense que plus on en parle, plus ça va ouvrir peut-être les horizons à ce que les professeurs de yoga donnent plus de temps à travers leurs cours pour cette ouverture-là spirituelle.
D'accord. Donc, je vous remercie. Je vous laisse vraiment la parole. Vous avez le dernier mot. Nous allons mettre une petite musique, tiens. Lo Larsen, une pièce qui nous vient du Danemark. Régine Canas, ça a été un privilège de faire votre connaissance, de vous rencontrer un tout petit peu. On se reparle, c'est certain. Merci, merci de faire ce que vous faites et s'il vous plaît, continuez d'ouvrir les portes comme ça pour tout le monde. C'est un privilège. Merci beaucoup. La parole est à vous.
Alors voilà, donc sur ces bonnes paroles, eh bien, on va conclure que le yoga est ouvert à tous. C'est bien important pour moi de le souligner une dernière fois. Ça me fait tellement plaisir de le dire. Ouvert à tous, il n'y a pas de jugement à faire. Tout le monde peut faire du yoga. On n'a pas à s'approprier le yoga d'une certaine façon. C'est vraiment pour tous. Mais c'est à nous à le partager, ça. Et à nous ouvrir à l'offrir de cette façon-là aussi. Maintenant, eh bien, on va se proposer maintenant de faire un petit arrêt ensemble. Alors, la musique, tranquillement, va pouvoir s'installer. Et on va pouvoir faire une pause, moment de recueillement, justement, de penser à toutes ces personnes qui n'ont pas notre chance nécessairement de bouger autant qu'ils le voudraient. Et puis, on va plutôt se ressourcer dans la gratitude de tout ce que nous avons. Tout ce qui est là, au lieu de focusser sur ce que nous n'avons pas. Alors, regardons notre attention sur la vie qui nous habite. C'est déjà un grand cadeau, n'est-ce pas, cette vie. Prenons le temps de vous installer sur une chaise ou au sol, confortablement. Vous avez peut-être déjà fait des détentes. Donc, une petite détente simple entre nous. Prenez conscience de votre assise, de votre bassin. Puis, sentez-le justement, ce bassin. Le côté gauche et le côté droit, bien déposé. Et puis, on prend conscience aussi de Danda, la colonne vertébrale est bien allongée. Laissez les épaules bien décontractées aussi et détendues. Et les bras détendus, décontractés et relâchés. Les mains détendues, décontractées et relâchées. Et le visage maintenant, tous les muscles du visage se détendent, se relâchent et se décontractent. Retournez au niveau de vos pieds maintenant. Vous sentez vos pieds détendus, relâchés et décontractés. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Laissez-la naturelle, laissez-la libre, elle peut être subtile, voire même irrégulière. Laissez-la aller, juste prendre conscience de votre souffle, respirez seulement par le nez, sentez l'air qui entre au niveau des narines et qui en ressort un peu plus chaud, un peu plus tiède. Sentez l'air qui entre et qui ressort, sans rien changer, juste un rythme naturel. Laissez tout le corps maintenant globalement se détendre encore un peu plus, se relâcher encore un peu plus. Donnez-vous l'impression que tranquillement, vous êtes enveloppé à l'intérieur d'une belle bulle bleu ciel. Tranquillement, vous êtes protégé dans cette bulle bleu ciel qui représente le calme, la détente et la paix. Laissez cette bulle prendre de plus en plus forme et sentez-vous confortable à l'intérieur, en sécurité. Laissez-vous complètement aller à l'intérieur de cette bulle, détendue, relâchée. Puis, sentez la bulle qui devient de plus en plus légère et vous à l'intérieur, comme si vous flottiez un peu avec elle, comme s'il y avait un petit balancement léger qui vient encore une fois vous détendre un peu plus. Laissez-vous bercer de gauche à droite dans votre bulle bleu ciel, toute douce, tout doucement, un mouvement sécurisant et réconfortant. Comme si la gravité a disparu. La légèreté maintenant prend toute la place dans le corps, dans la tête, dans le cœur aussi. Et on flotte encore un peu dans cette belle bulle bleue, douce, confortable. On laisse aller le mouvement naturel. Et on est bien, on respire lentement, naturellement. Tout est parfait. Et on revient maintenant tranquillement dans le corps. La bulle s'est arrêtée de bouger. Et tranquillement se dépose. La bulle se dissout tout doucement. Et elle laisse derrière elle une trace de bien-être. Très agréable. Puis, on revient en mouvement maintenant. On revient là où on était au départ. Faites une belle inspiration profonde avec le nez, suivie d'une longue expiration, toujours avec le nez, tranquillement. Une dernière fois, j'inspire profondément et cette fois-ci, j'ouvre les yeux et j'expire profondément. Excellent. Alors, on a fait une belle détente ensemble. Je vous laisse
sur les bienfaits de cette détente et je vous souhaite un bon yoga et une belle ouverture du cœur. Namasté à tous.